RFI 9h à Paris, une heure de moins en temps universel. Et le journal avec Martin Guez.
Et on dit bonne journée à notre prince aimé de la matinale. À demain, Julien Coquelrohem à la une de l'actualité internationale ce matin. Retour à la normale à Heathrow, le 5e aéroport du monde. À l'arrêt complet ce vendredi, après un incendie, on prendra des nouvelles du trafic aérien londonien avec Emeline Vint. C'est la crise en Israël, crise institutionnelle, crise constitutionnelle, alors que la Cour suprême a décidé de suspendre la décision de Benjamin Netanyahou de renvoyer le chef du renseignement intérieur. En France, perpétuité pour Medine Mouche, reconnu coupable de séquestration, de torture, de barbarie contre 25 Occidentaux détenus entre 2013 et 2014, mais aussi contre de très nombreux anonymes syriens. Au Burkina Faso, ouverture d'une enquête après la publication de messages haineux sur les réseaux sociaux contre la communauté Peul. Enfin, en sport, les cyclistes reprennent les guidons. Première classique de la saison avec Milan-San Remo ce samedi. Et George Foreman quitte le ring, le mythique poids lourd mort cette nuit à l'âge de 76 ans. Retour à la normale à Heathrow, le plus grand aéroport d'Europe, qui était à l'arrêt ce vendredi en raison d'un incendie dans une sous-station électrique, ce qui a perturbé tout le trafic aérien. Après une journée de pagaille, le week-end s'annonce plus calme. Bonjour Emeline Vint.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Londres, le trafic est donc plus fluide ce matin à Heathrow ?
Dans l'ensemble, et de manière assez surprenante, oui. Compte tenu du chaos de ce vendredi, quelques vols avaient déjà décollé ou atterri vendredi soir, et les premiers longs courriers de la journée sont partis ce matin. Alors, on n'est quand même pas tout à fait revenu à la normale, hein, pour les départs. Peu de perturbations, mais pas mal d'annulations. En revanche, côté arrivée, en particulier pour les liaisons avec l'Afrique, l'Amérique ou l'Asie. British Airways, la compagnie aérienne nationale basée à Heathrow, s'attend à 15% d'annulations ce samedi et à des retards pour le reste de ses liaisons. Et oui, après quasiment 24 heures de pause, il faut relancer les systèmes et surtout rapatrier certains avions restés bloqués et le matériel et les équipages.
Emeline, comment est-ce qu'un tel aéroport, surtout, a-t-il pu être paralysé pendant toute une journée par un simple incendie ?
Heathrow indique que ses systèmes de secours ont bien fonctionné, mais qu'il s'agit de systèmes d'appoint qui ne pouvaient pas supporter le fonctionnement normal d'un aéroport. Les syndicats du secteur et le gouvernement estiment que l'incident pose quand même de nombreuses questions en termes de résilience, de préparation et d'adaptation. Sans parler du coût, on parle de millions d'euros perdus et des dégâts pour la réputation de l'aéroport. Surtout qu'Heathrow est considéré comme une infrastructure nationale critique et essentielle à la desserte du pays. L'enquête sur l'incendie en lui-même est en cours, mais une autre investigation devrait suivre, réclamée par la ministre des Transports, sur la réponse et la gestion de l'incendie par Heathrow.
Merci Emeline Vint, en direct de Londres sur RFI. Israël, en pleine crise institutionnelle, des milliers d'Israéliens dans la rue à Jérusalem contre la révocation de Ronen Bar, le patron du Shin Bet, chef du renseignement intérieur. Un limogeage suspendu par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, qui a gelé la décision du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre menace de passer outre, mais se heurte aux responsables judiciaires. Des partis d'opposition ont déposé des recours devant la Cour suprême, illustrant une vraie fracture dans la société israélienne, selon le politologue Ilan Grelsheimer.
Il y a un fossé qui a commencé à se creuser il y a déjà pas mal de temps entre un gouvernement, une coalition qui est très de droite, dirions-nous, de droite et d'extrême droite. Et face à cela, il y a évidemment la très grande majorité de la société civile qui est extrêmement inquiète de ces menées gouvernementales qui résistent, qui descendent dans la rue, qui annoncent que si le gouvernement ne respecte pas les arrêts de la Cour suprême et ce que lui dit de faire la procureure de l'État, mais on se dirige peut-être vers la grève générale, peut-être vers l'arrêt, au fond d'un pays qui serait à l'arrêt. Donc c'est grave, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'État d'Israël, mais ce n'est pas ça qui influe sur la continuation de la guerre ou sur la lutte contre le terrorisme en Cisjordanie.
Des propos recueillis par Théo Renaudon et au Liban voisin. Le chef de l'état-major assure que l'armée va répondre sévèrement aux tirs de roquettes tirés depuis le Liban. On part en France maintenant, pas la moindre réaction au moment du verdict pour Mehdi Nemmouche, qui a pourtant hier soir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après plus de 10 heures de délibération de la cour, il était presque 21h lorsque la cour d'assises spéciale à Paris a reconnu Mehdi Nemmouche coupable d'avoir été le geôlier de 25 journalistes et humanitaires occidentaux retenu en otage par le groupe État islamique en 2013. Reconnaissance aussi de toutes les victimes syriennes anonymes, déjà condamnées à la perpétuité en Belgique pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. Il est condamné pour séquestration, acte de torture et barbarie, Laura Martel.
Mehdine Mouche est resté impassible à l'énoncé de la peine conforme aux réquisitions. En demandant la perpétuité, l'avocat général avait souligné que le parquet l'a réservé aux djihadistes les plus dangereux, pointant que si quelques 300 terroristes ont été jugés depuis 6 ans, la réclusion à vie n'a été prononcée qu'une vingtaine de fois, dont 10 pour des accusés détenus. Benjamin Chambre avait alors insisté sur la dangerosité extrême et persistante de Mehdine Mouche, qui dès le début du procès s'était en effet revendiqué soldat de l'État islamique, tout en niant son rôle de geôlier. J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, a-t-il encore clamé lors de ses derniers mots. Le fait que je sois incarcéré ne changera rien, je suis un homme debout. Pour ce qui est de ces deux co-accusés présents dans le box, le français Abdelmalek Tanem, également condamné pour séquestration, s'est infligé 22 ans de prison. Kaïs Al-Abdallah, un Syrien considéré comme un haut cadre de l'EIRAK, a lui écopé de 20 ans, la peine maximale pour association de malfaiteurs terroristes. La cour n'a pas motivé sa décision, mais concernant la séquestration et les actes de torture et de barbarie, elle a élargi le périmètre des victimes reconnues à l'ensemble des 25 journalistes et humanitaires occidentaux kidnappés à la même période en Syrie, y compris ceux qui ne sont jamais revenus, mais aussi aux ressortissants syriens non identifiés, dont les cris hantent encore les ex-otages.
Laura Martel, du service France de RFI. RFI 8h06 à Ouagadougou, où le procureur du tribunal de grande instance a ouvert une enquête après la publication de messages haineux sur les réseaux sociaux contre la communauté Peul. Des appels au meurtre, alors que les Peuls ont justement été victimes d'une nouvelle attaque. Un massacre de l'armée burkinabé était supplétif contre des civils Peuls à Solenzo début mars dans l'ouest du Burkina Faso. L'ouverture de l'enquête est saluée par Ousmane Diallo, chercheur pour le Sahel à Amnesty International, même s'il déplore l'absence répétée de sanctions après ce type d'exaction.
C'est ça le contexte de ce communiqué du procureur-là, que nous saluons, mais nous notons aussi que ce communiqué n'est qu'une répétition de ce qui a été fait au cours des 4 dernières années. Ce n'est pas la première fois qu'un procureur du Faso dénonce des propos faisant l'apologie des appels ethniques, souvent en lien avec la communauté Peul, donc qui est stigmatisée à cause de l'insurrection djihadiste, mais aucune suite ne vient en fait après ces communiqués-là. Donc il y a des dénonciations, des rappels de la loi, mais il n'y a pas de sanctions malheureusement. Et ce qu'on peut noter durant les 4 dernières années, c'est que cette impunité-là, non seulement qui se traduit dans les propos apologétiques et appelant presque au nettoyage ethnique, et aussi dans la violence et dans la stigmatisation et dans la normalisation de la violence contre les communautés Peul qui vivent dans les zones d'intervention militaire comme dans la boucle du Mont-Houn, facilite la perpétuation de ces violences-là. Donc pour qu'il y ait vraiment un effet, il faut qu'il y ait des sanctions contre ces auteurs de posts Facebook, mais aussi ces propos qui sont tenus dans les radios en langue locale qui font l'apologie de la haine ethnique.
Propos recueillis par Frédéric Gara. Loin du Tour du Faso, c'est le début des classiques cyclistes en Europe. Milan-San Remo pour commencer. Premier coup de pédale en Italie ce samedi pour le peloton. Le Slovène Tadej Pogacar fait figure de grand favori, lui qui n'a jamais remporté la course. Et l'Érythréen Binyam Girmay qui aimerait bien le contrarier et lancer sa saison, lui qui se montre bien discret depuis la reprise fin janvier. Thomas Saint-Léger.
8 jours de course, une deuxième place pour meilleur résultat. Binyam Girmay a lancé sa saison piano-piano, en douceur, encore loin de ses standards de l'été dernier. 3 victoires sur le Tour de France, maillot vert en prime. C'est aussi de nouvelles attentes, un nouveau statut à assumer.
Tout est nouveau. À part moi, vous avez le même Binyam Girmay devant vous. Ça n'a pas été dur de se remettre au travail, au contraire. Gagner m'a donné de la confiance. C'est plus facile aussi de sortir s'entraîner. Quand vous avez le moral, la motivation vient toute seule. Depuis que j'ai remporté ces grandes victoires, je me sens beaucoup plus heureux sur le vélo.
Heureux dans la vie, aussi, Binyam Girmay est devenu père pour la deuxième fois le mois dernier. Avec l'accord de son équipe, il est parti en Érythrée voir sa famille agrandie et préparer chez lui, sur les hauts plateaux, les classiques de printemps, des courses dont il rêve depuis sa victoire surprise il y a 3 ans sur les pavés de Gent Wevelgem. Alors voir Girmay briller à San Remo ou dans les Flandres, c'est aujourd'hui possible. Adrien Petit, l'un de ses proches coéquipiers.
Avec l'expérience qui va s'ajouter à sa force, il est capable de grandes choses sur les monuments. Pour le moment, il se focalise plus sur Milan-San Remo, mais on ne sait pas où sont ses limites et je pense que sur le Tour des Flandres, des Paris-Roubaix, il sera aussi à la hauteur d'aller chercher un grand résultat.
Paris-Roubaix pour plus tard, sans doute. Girmay ne devrait pas découvrir cette année la reine des classiques, sauf si, allez savoir, il venait à surprendre encore d'ici là.
Thomas Saint-Léger du service des sports de RFI, du sport aussi tout à l'heure, à l'écoute de notre antenne 16h10 temps universel pour Mondial Sport. RFI bientôt 9h10, ici à Paris, excellente journée, à l'écoute de la Radio du Monde.